Et c'est l'heure de la main verte. Alain Baraton, votre main verte nous guide ce matin vers un coup de chapeau aux jardiniers qui travaillent pour la ville de Paris.
Ils sont près de 1200 à œuvrer tous les jours dans les 450 squares et jardins de la capitale. Ce qui représente avec les bois de Boulogne et Vincennes près de 2000 hectares, ce n'est pas rien. Ces femmes et ces hommes ne se limitent pas à planter les massifs et tondre les pelouses. Ils renseignent les promeneurs, rassurent les enfants et accompagnent les personnes âgées.
Et donc vous avez rencontré cette semaine ceux qui sont en charge du square des poètes.
Un square coincé entre le périphérique, un boulevard très emprunté par les voitures et le chantier scandaleux d'agrandissement du stade de Roland-Garros au détriment du jardin des Serres d'Auteuil, ça c'est dit. Voilà. Toujours est-il que ce square mérite, je parle du square des poètes, mérite d'être visité pour rencontrer des agents ô combien sympathiques et pour parler littérature, car ce square parisien n'est pas tout à fait comme les autres. Il est bien sûr planté d'arbres et d'arbustes, il possède des jeux pour enfants, des bancs, des sanitaires, mais il présente aussi et surtout des plaques gravées à la mémoire des écrivains.
Et d'où le nom, le square des poètes.
Il a été installé en 1954 et dans ce jardin, donc, il a été posé une petite centaine de cartels où la prose d'auteurs plus ou moins connus évoque ce qui nous intéresse, le jardin, comme le célébrissime Mignonne. Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose
sa robe de pourpre au soleil,
a point perdu cette vesprée,
les plis de sa robe pourprée,
et sont un Laetitia au vôtre pareil.
Oh, il est gentil. Nous avons tous reconnu, bien sûr, Pierre de Ronsard.
Alors, autre texte de Gérard de Nerval. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. C'est magnifique, non ?
C'est très beau.
Alors avec vous maintenant, Laetitia Lamartine.
Voilà ce chêne solitaire dont le rocher s'est couronné. Parlez à ce tronc séculaire, demandez comment il est né.
Alors c'est quand même très amusant d'avoir eu cette idée de mettre des plaques. Alors on aurait pu ensemble, Laetitia, ce matin, déclamer Victor Hugo, car je sais que vous aimez beaucoup cet auteur, Arthur Rimbaud, La Fontaine, Verlaine de Musset, Mallarmé, pour ne citer que les plus illustres.
Et Théophile Gautier avec son premier sourire au printemps.
Alors voilà, je vais me lancer. Petit texte court que je trouve sublime. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or.
C'est un petit crâneur, Alain Baraton.
Peut-être, mais c'est un square que j'aime beaucoup. Je crâne, c'est vrai, mais dans ce jardin, je ne crâne pas. J'aimerais y emmener les enfants pour qu'ils apprennent à découvrir les arbres. Il y a un pin noir magnifique qui n'est pas tout jeune. Et puis surtout, c'est une très belle occasion de leur apprendre la littérature, les grands auteurs. Peut-être même de se perfectionner dans l'art de lire. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et il est vrai qu'en début de semaine, très tôt, j'ai rencontré des gens qui y travaillaient. Il faisait une chaleur épouvantable. J'ai posé quelques questions. Tous, sans savoir qui j'étais, m'ont répondu avec une gentillesse inouïe.
Et c'est là où il est un vrai crâneur, en fait, sans savoir qui j'étais. Mais moi,
non.
The Jardinier of Versailles.
<Mais non. rire>
Allez, Alain Baraton, vous faudra rester parce qu'il va falloir maintenant.
Et l'accès de ce square est gratuit.
Ah, voilà, sans passe Baraton. À 7h48 sur France Inter, la main verte d'Alain Baraton est à votre écoute et répond donc à toutes vos questions. Et la première question est de Jeanne. Et je me pose la même question. Les concombres de mon potager ont un goût amer. Pourquoi ? Moi, je dis parce qu'elle les a trop arrosés.
Eh bien, avant de répondre à votre question, à mon tour de vous en poser une petite. Quelle est la différence entre les concombres et les cornichons ?
Aucune idée.
Bien, le nom latin, botanique plutôt, du concombre, c'est Cucumis sativus. Le nom latin du cornichon, c'est Cucumis sativus. Ce sont les mêmes plantes. Souvent, on ne le sait pas. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est exactement la même plante. L'une est cultivée petite, l'autre un peu plus grosse, tout simplement.
Et ça se cultive de la même manière.
Exactement de la même façon. Alors maintenant, pour répondre à votre question, vous pensiez qu'ils sont trop arrosés.
Oui.
Bah c'est l'inverse, voyez-vous.
Ah bon ? Ah.
Souvent, c'est l'absence d'eau, ou plutôt, ce serait plutôt un déséquilibre dans l'arrosage. Les plantes ont besoin d'être arrosées de manière régulière. Vous savez, une plante est un être vivant, je ne cesse de le dire. Vous-même, Laetitia, vous buvez tous les jours, du moins je l'espère, de manière, je dirais, pratiquement habituelle. On ne peut pas, je ne pense pas un instant que vous puissiez boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour, et puis d'un seul coup, vous montez à 15 litres ou à zéro. Donc, vous avez une habitude, une moyenne de consommation. Alors, le concombre, il est pareil. Vous êtes dans un jardin, vous l'avez planté, vous mettez 30 litres le lundi, et puis pendant 8 jours, vous ne l'arrosez plus, vous en rajoutez 2 litres. Non, il y a besoin de régularité. Donc c'est soit un déséquilibre dans l'arrosage, cela peut venir aussi de la terre. Le concombre aime bien être cultivé dans une terre riche, donc mettez de l'humus, le bon vieux terreau de jardin, mais veillez à ce qu'il ne manque pas d'eau. Et l'absence d'arrosage peut provoquer effectivement l'aigreur du concombre. Certaines variétés aussi sont plus, comment dire, encourageantes pour la plante à être aigre que d'autres variétés.
Donc Jeanne, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Robert a cette question. Comment installer sur mon petit étang cette plante aquatique aux feuilles énormes?
Qu'on appelle le Victoria Regia ou Amazonica.
Oui, parce qu'il n'a pas dit.
Comment se prénomme notre charmante...
Robert, comme
alors,
le dictionnaire.
Robert, si vous habitez dans une région où il fait en moyenne 25 à 30 degrés tout au long de l'année, si le taux d'humidité chez vous est d'à peu près 90% tout au long de l'année, alors oui, vous pourrez installer cette plante magnifique. Mais ne rêvez pas, si cette plante fait l'admiration des pays étrangers et lointains, ce n'est pas pour rien. On ne peut pas cultiver en plein air aujourd'hui eh bien le Victoria Regia, ou alors dans des conditions très rares. L'occasion de rappeler qu'il y en a un très bel exemplaire à Chaumont-sur-Loire. Vous savez qu'il y a le Festival international des jardins
sublime.
De Chaumont. C'est sublime. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs tous les deux très
oui,
vite.
Parce que c'est très beau en plus.
Parce que c'est vraiment magnifique. Il y a une serre et dans la serre, il y a un étang, enfin un étang, un bassin, pardon. Et dans le bassin, il y a justement cette plante qui pousse, là, dans de telles conditions, on le peut, mais à l'extérieur, ne rêvez pas, ça ne marchera pas.
Alors, Julien a aussi cette question, et je vous la pose aussi, je suis inquiet pour ma pelouse qui n'a jamais été aussi sèche, et la question en fait de Julien, c'est va-t-elle, cette pelouse, reverdir à un moment?
Moi aussi, je suis inquiet, ça peut vous rassurer, je regarde les pelouses aujourd'hui dans le parc de Versailles, certaines sont drap. Ce n'est même plus une pelouse, c'est même plus jaune, on a l'impression qu'elle disparaît. Mais la pelouse a plein de ressorts. Si elle a jauni, c'est qu'elle n'a pas d'arrosage intégré. Si elle n'a pas d'arrosage intégré, cela sous-entend que le gazon a pris les devants et a enfoncé en profondeur les racines. Les premières pluies devraient logiquement redonner verdeur au gazon. Mais attention, certaines variétés qui poussent sur la pelouse sont plus rapides à se développer que d'autres. Et il est fort à redouter qu'au printemps, je deviens fou, que quand les premières pluies vont revenir, là, d'ici quelques temps, le plus vite sera le mieux. Il faudra peut-être réensemencer quelques parties.
Ah oui,
oui, parce qu'il va y avoir des plantes qui vont prendre comme le plantain, comme le liseron qui risque de prendre le dessus. Donc ce que l'on fait, si on n'arrose pas et qu'on attend vraiment que ce soit la pluie qui s'en occupe, on laisse pousser, on retombe immédiatement au fur et à mesure et on n'hésite pas à donner des petits coups de griffe à l'automne pour aérer le gazon et lui permettre vraiment, et un petit coup de semis, parce que là il est vrai que le gazon...
Vous dites des coups de griffe, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'à l'automne, donner des petites une griffe ou un râteau si vous voulez avec des dents.
Des gros coups de râteau sur votre pelouse.
Non, pas des grands coups. Non, on y va calmement. Ça permet simplement de semer du gazon et de permettre une meilleure pénétration des graines dans la terre pour ne pas, entre autres, que les petits oiseaux ne viennent les boulotter, voyez-vous.
Ah d'accord, donc on les met dans des trous, quoi, votre gazon.
Voilà, créé par la griffe.
D'accord.
Est-ce que vous me suivez?
J'ai un peu de mal, mais maintenant, j'apprends. Question de Dominique. Quelle est la meilleure période pour tailler des tamaris?
Alors, on fait très simple. Vous avez des tamaris qui fleurissent pratiquement en été, au printemps, à l'automne. On taille les arbustes à fleurs après la floraison, c'est une règle. Donc si vous avez des tamaris qui sont en fleurs en ce moment, vous attendez l'automne pour le faire. Mais je vous rappelle que le tamaris n'a pas non plus besoin d'être taillé pour être beau. Quantité de végétaux se passe largement du coup de sécateur, ne croyez pas.
Alors vous dites arbre à fleurs, donc le lilas des Indes, pareil, après sa floraison, parce que c'est maintenant sa floraison.
Ils sont en ce moment sublimes. Le lilas des Indes a toujours besoin de chaleur et de soleil pour être beau. Il ne manque pas de soleil cette année. Il y en a même en plein cœur de Paris, absolument magistraux, d'une beauté incroyable. On attendra donc l'automne, simplement pour les tailler, si on a besoin de les tailler. Là encore, le lilas des Indes ne réclame pas de taille pour être beau. Ouais. Que l'on cesse de croire...
Oui, mais sauf quand il déborde et puis...
Dans quel cas, c'est une taille de maintien. Il faudra quand même le faire à l'automne. On va donc tailler votre lilas des Indes, car je vois que cette question est personnelle. Et on avait pourtant dit pas d'affaire personnelle au micro.
Non.
Hein, donc on va le
mais
tailler.
Mais je me pose des questions.
Voilà, on le maintient à l'automne. On le taille délicatement. Et je vous rappelle, Laetitia, qu'il vaut mieux tailler un végétal régulièrement que très fortement de temps à autre.
Et on laisse les branches chez le voisin quand ça déborde. Voilà.
Si le voisin est un homme intelligent, ce que j'en suis convaincu d'ailleurs, oui, si ça ne le dérange pas.
Merci Alain Baraton, c'était La Main Verte. À la semaine prochaine.
Avec plaisir.